Votre service. Ce soir, ce sont les séminaristes et les frères qui s'en chargent. Ensuite, donc deux séminaristes, Benoît Philippon et Jean Lorbert, donc sont chargés de d'être auprès de vous, à vos petits soins, si jamais vous avez oublié quelque chose, et donc s'il y a besoin de quoi que ce soit. En même temps, ça me donne l'occasion juste de vous dire que Benoît Philippon est le neveu de Vincent Lambert, dont on a parlé énormément. Donc, sa mère est une sœur de Vincent Lambert. Et donc, il est séminariste ici, donc en première année. Et donc, c'est l'occasion pour vous de prier pour son oncle, voilà, pour que, eh bien, il soit maintenu en vie autant que cela est nécessaire, comme le bon Dieu voudra, voilà. Donc, ensuite, une demoiselle est chargée de vous réveiller le matin. Donc, non pas en musique, enfin, c'est un peu en musique, mais c'est une cloche, une vulgaire cloche qui va sonner pour vous réveiller. Donc, essayez d'être à peu près à l'heure, ce serait bien. Bon, après, celles qui ont un problème particulier aussi, c'est pareil, c'est pas. Voilà. Après, bon, l'autre dernier conseil, c'est donc d'essayer de faire la retraite en silence. C'est important, hein? Donc silence, même de vos moyens aussi, de portables et autres, hein? Donc de smartphone et puis le reste. Donc parce que la qualité de la retraite dépend quand même de votre, enfin, essentiellement, hein, de cette qualité, de la qualité du silence en fait. Donc Dieu parle dans le silence et donc si vous l'écoutez Dieu, je pense que c'est pour ça que vous êtes venu ici. Donc c'est important de ne pas encombrer votre esprit avec ces engins modernes qui peuvent être bien utiles mais qui peuvent aussi parfois nous faire perdre du temps et qui peuvent aussi parfois nous être un handicap pour notre élévation, l'élévation de notre âme. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette retraite ici? Est-ce que c'est une amie qui vous a dit, ouais, c'est super à Flavigny, on mange bien, les séminaires sont sympas. Est-ce que c'est ben, vous-même aussi, vous avez donc ressenti le désir de vivre plus près de Dieu? J'espère que c'est cela d'ailleurs qui vous a amené ici, hein. Est-ce que c'est aussi le fait que vous avez déjà fait d'autres types de retraites, donc vous voulez changer, donc vous dites pourquoi pas faire une retraite de vie chrétienne après les retraites de Saint-Ignace? Mais quel que soit le motif, en tout cas, pour lesquels vous êtes venu ici, ce que je voudrais en fait, c'est vous aider, et comme je l'ai écrit dans le petit mot que je vous ai adressé quand vous avez décidé de faire la retraite, c'est d'essayer de faire cette retraite dans un esprit donc catholique, bien sûr. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes appelés à être des Martes dans la vie courante. Marthe, donc, elle symbolise la vie active. Marthe était. Donc, chez qui notre Seigneur aimait se rendre, la sœur de Lazare, et elle avait une sœur qui, elle, s'appelait Marie-Madeleine, et qui, elle, après une vie dissolue, s'est convertie et est devenue la grande contemplative qu'on connaît à la Sainte-Baume, et qui est donc le modèle de la vie contemplative. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt des femmes actives, donc des Martes plus que des Maries, mais le but de cette retraite, c'est que vous restiez Martes avec le cœur de Marie. Donc c'est ça, je dirais, un peu l'objectif à atteindre. Donc que vous restiez ce que vous êtes, mais avec une dimension peut-être plus profonde, plus spirituelle, plus détachée des sens, des convictions plus fortes encore, pour lutter contre les difficultés de la vie, contre les tentations que vous pouvez avoir. Que vous puissiez sortir de cette retraite, en fait, je dirais, plus forte et plus sereine. Je pense que c'est ça, en fait, un peu le but d'une retraite. Bon, j'ai prêché une retraite à quelques jeunes filles, là, il y a juste 15 jours. Au sortir de cette retraite, je pense que c'est encore ce qu'elles ont éprouvé. Donc, je pense que ce sera pareil pour vous. Enfin, je les souhaite, en tout cas, hein, de tout mon cœur. Que vous puissiez, donc, au sortir de la retraite, être plus forte pour faire face à la vie d'aujourd'hui, qui n'est pas évidente. Et puis en même temps aussi plus sereine, donc toujours plus paisible pour faire face à tout. Parce que Dieu, justement, était un Dieu de paix. Et donc quand on se rapproche de Dieu, eh bien, il met notre âme dans la paix. Donc il y a une paix qui est selon Dieu et une paix qui, malheureusement, est selon le démon. Le démon cherche à étouffer la conscience des gens pour leur donner une fausse paix. Mais Dieu, lui, cherche à nous donner la vraie paix. Et la vraie paix, comme le dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Donc une retraite, c'est nous aide à mettre de l'ordre. De l'ordre dans notre tête, de l'ordre dans nos objectifs, de l'ordre dans notre vie, de l'ordre dans notre conscience. Et lorsqu'on arrive justement à cet ordre, eh bien, en ce moment-là, on est dans la paix. Et avec la paix, il y a souvent aussi une certaine joie que le bon Dieu donne, qui sont le fruit de la charité. Donc, en plus, je dirais, on est tous appelés, si vous voulez, sur la terre à aimer Dieu, c'est le premier commandement, et à aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Mais je dirais que l'homme est parfois plus dans le domaine, par nature, de la réflexion, de la raison, et la femme, c'est plus le cœur. Donc, dans une famille équilibrée, normalement, l'homme, c'est la tête, et la femme, c'est le cœur. Et donc justement, comme ça, la femme c'est le cœur, je dirais, l'amour pour vous a encore une plus grande place que pour nous. Alors que pourtant, pour l'homme aussi, bien sûr que l'amour a une très grande place, hein. Mais par nature, disons, la femme représente l'amour. Or justement, l'amour, je dirais, un amour dévoyé peut conduire aux pires catastrophes, à des dégâts épouvantables. Mais un amour réglé, mais décuple notre énergie et nous permet de faire des choses extraordinaires. Voyez. Donc on a là l'exemple justement de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine qui malheureusement a eu au départ elle avait un grand cœur, c'était faisait partie de ses qualités, elle avait un grand cœur, mais son cœur au début était dévoyé, donc ça l'a conduit à des tas de désordres. Mais ensuite quand elle s'est rendue compte, eh bien elle a pleuré ses péchés aux pieds de notre Seigneur, et ensuite eh bien cet amour en elle était si fort qu'elle est restée au pied de la croix. Et ensuite elle a eu la première, la grâce de voir notre Seigneur ressuscité, donc après la Très Sainte Vierge Marie. Donc c'est dire que la force que l'amour peut représenter, même après la résurrection, vous voyez, les hommes arrivent, parce que bon, les femmes, quand elles peuvent se passer des hommes, elles se passent bien d'eux, mais ensuite, c'est pour ça qu'elles vont toutes seules, parce qu'elles sont aussi plus généreuses, elles vont les premières au tombeau, mais ensuite, eh bien, lorsqu'elles se rendent compte que le corps de notre Seigneur a disparu, ben, que fait Sainte Marie-Madeleine? Elle va chercher Saint-Pierre. Et donc Saint-Pierre et Saint-Jean viennent. Mais Saint-Pierre et Saint-Jean voient un tombeau vide. Qu'est-ce qu'on va rester faire devant un tombeau vide? On rentre à la maison, vous voyez. Ben, Sainte Marie-Madeleine, elle reste. Et parce qu'elle est restée, qu'elle a pleuré, et qu'elle a supplié, et ben, finalement, notre Seigneur lui est apparu, vous voyez. Donc c'est dire la puissance de l'amour, d'un amour réglé. Et donc, puisque justement, je dirais, dans les qualités qui sont les vôtres, le cœur a une très grande place, eh bien, je pense que pour redresser la société chrétienne, eh bien, on ne la fera pas sans des hommes, mais on ne la fera pas non plus sans les femmes. Et vous avez un rôle essentiel, parce que je pense que nos ennemis le savent, ils se sont servis de la femme pour pourrir la société, eh bien, c'est avec des femmes chrétiennes équilibrées qu'on arrivera à remettre de l'ordre aussi dans la société et dans l'Église. Alors, à condition que, bien sûr, là aussi, pareil, que chacun reste à sa place, que ce soit dans l'Église ou dans la société civile. Alors, maintenant, donc, en ce début de retraite, il me semble entendre notre Seigneur dire à chacune d'entre vous ce qu'il disait un jour à Zachée. Zachée qui était perché sur son arbre et qui désirait voir notre Seigneur. Notre Seigneur lui dit: hâte-toi de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. Eh bien, cette phrase, dans un sens littéral, veut dire: eh bien, descends de l'arbre, j'ai envie aujourd'hui d'aller manger chez toi. Mais dans un sens spirituel, je dirais: hâte-toi de descendre, c'est eh bien, autant que possible, développe en toi la belle vertu d'humilité, parce que j'ai envie de demeurer chez toi. Donc une qualité première pour pouvoir approcher de Dieu, eh bien c'est l'humilité. Voyez. Dieu donne sa grâce aux humbles. On se demande pourquoi la Sainte Vierge a eu la grâce immense de voir notre Seigneur qui venir en son sein. Eh bien, parmi les motifs qui ont conduit Dieu à venir en elle, c'était sa pureté, bien sûr, mais c'était surtout son humilité. La Sainte Vierge l'a chantée donc dans le Magnificat. Lorsque sa cousine fait son éloge, eh bien, elle renvoie toute louange à Dieu et elle dit: Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Donc Dieu aime les âmes qui sont humbles. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, l'humilité, c'est la vérité. Vous voyez? Dieu est vérité et l'humilité, c'est la vérité. Alors, en chacun d'entre nous, malheureusement, il y a un désordre qui a été produit. Eh bien, déjà chez nos premiers parents, donc Adam et Ève, et on a hérité cela d'eux, même après le baptême, ce désordre demeure. Donc, on a chacun d'entre nous un amour déréglé de nous-mêmes. Et cet amour déréglé de nous-mêmes fait qu'on vit souvent dans l'illusion. On se prend pour ce que nous ne sommes pas. Et donc, si on veut arriver à faire une bonne retraite, eh bien, la première chose à faire, c'est justement de descendre, c'est-à-dire de se remettre à sa place. Donc, se descendre, ça ne veut pas dire s'abaisser de façon indue, mais ça veut dire essayer de se remettre à sa place. Parce que Dieu, donc, justement, aime les âmes qui sont bien à leur place. Donc la vertu par excellence du catholique, je dirais que c'est la charité, parce que Dieu est charité. Mais la vertu qui va faire place à la charité dans notre âme, eh bien, c'est l'humilité. L'humilité enlève l'obstacle à la charité. Pour aimer Dieu comme je dois l'aimer et aimer mon prochain comme je dois l'aimer, eh bien, je dois pratiquer l'humilité. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez vous-même un seul instant à cela, si vous voulez, imaginez que dans votre famille, dans votre entreprise, dans le milieu, oui, professionnel ou social, tout le monde serait parfaitement humble. Bah, vous imaginez que la vie serait plus facile, hein, pour tout le monde, j'imagine. Donc ça veut bien dire, si vous voulez, rien que d'y penser en vous-même, eh bien que, en travaillant à essayer d'acquérir cette vertu, eh bien, on va améliorer eh bien, les rapports avec les autres. Voyez. Et donc la retraite, je pense, est là pour nous aider à cela. C'est pour ça le « hâte-toi de descendre », ça veut dire eh bien, d'essayer de se regarder en fait, avec les lunettes du bon Dieu. Voyez. Lorsque l'on va mourir, et ça viendra bien un jour, on ne sait pas quand, mais ça viendra un jour, eh bien, à ce moment-là, nous paraîtrons devant le bon Dieu. Et en ce moment-là, nous apparaîtrons devant lui tel que nous sommes réellement. Voyez. Mais souvent, malheureusement, dans la vie, quand on est jeune, quand on est en bonne santé, eh bien, on a tendance à se prendre un peu pour ce qu'on n'est pas. Et au contraire, on voit, j'ai encore eu l'occasion de faire un enterrement lundi dernier, et donc j'ai eu l'occasion de confesser une dernière fois, 4 jours avant sa mort, donc ce monsieur de 92 ans qui est mort ici dans la région. Et eh bien, c'est toujours frappant de voir l'humilité d'une personne lorsqu'elle est aux portes de la mort. À ce moment-là, vous voyez, ce n'est pas le moment de faire la gloriole, de montrer, de jouer un personnage. On se montre tel que nous sommes, vous voyez. Mais l'idéal, en fait, c'est de ne pas attendre ce moment-là pour réaliser, en fait, ce que nous sommes, vous voyez. Une autre fois, d'ailleurs, ça m'était arrivé, c'était aussi une dame ici dans la région aussi, il y a peut-être une bonne dizaine d'années, qui était plutôt une dame assez chic dans sa manière d'être, et qui, donc quelques jours avant sa mort, je suis allé la voir, et elle avait toute sa tête, donc elle était très lucide, et en la voyant, j'ai été frappé par justement le contraste entre l'apparence, enfin, ce qu'elle donnait, l'apparence qu'elle pouvait avoir quand elle était en bonne santé, je dirais, et puis ce moment-là. Et alors du coup, je lui dis, on est vraiment très peu de choses. Je lui dis ça comme ça, enfin, c'est le mot qui m'est venu en la voyant. Et elle me dit en ce moment-là, très peu. Mais le très peu qu'elle a prononcé, si vous voulez, en ce moment-là, on voyait qu'elle le vivait encore bien plus que moi, même si de fait, je le ressentais, mais elle le vivait pleinement. Voyez. Et donc, quand on dit qu'on est peu de choses, ça ne veut pas dire après qu'on doit se croire incapable de quoi que ce soit. Au contraire, on voit que les saints ont fait toujours beaucoup de choses. Mais justement, s'ils ont pu faire beaucoup de choses, c'est parce qu'ils étaient, je dirais, de dociles instruments entre les mains de Dieu. Donc ils avaient conscience que par eux-mêmes, ils n'étaient rien, et du coup, ils s'appuyaient sur Dieu pour recevoir les lumières de Dieu et recevoir la force de Dieu. Voyez. Donc plus on sera petit à nos propres yeux, en vivant dans la réalité, parce que de fait, on est peu de choses, plus on aura le réflexe, je dirais, de nous tourner vers Dieu pour implorer ses lumières, pour implorer sa grâce et pour ensuite lui demander son aide. Et pour le remercier aussi, parce que quand on fait le bien, on sent bien que c'est le bon Dieu qui nous a aidés, qui nous a donné la bonne parole au bon moment, le bon geste, la bonne attitude. Et donc, du coup, on peut à ce moment-là être un bon instrument, je dirais, de la providence, voyez, à la place où l'on est, chacun dans son entreprise, dans sa famille, dans le monde. Alors, pour arriver à cela, alors maintenant, quels sont les moyens qu'on va vous donner au cours de la retraite? Eh bien, donc, vous allez avoir des instructions, vous allez avoir des moments de silence, vous allez avoir aussi des lectures à table, et puis il y a aussi un certain nombre de livres qu'on a mis à votre disposition. Donc, le but, ce n'est pas d'avaler 36 livres pendant la retraite, mais essayer de choisir un livre, demander éventuellement conseil au prêtre. Un bon livre, ça peut être un bon compagnon, je pense, pour une retraite. Donc, et puis ensuite, lorsque quelque chose vous touche davantage, même si vous ne prenez pas beaucoup de notes au cours des conférences, eh bien, essayez en tout cas de les enregistrer donc dans votre tête. Ou peut-être même justement de le mettre par écrit. Ça peut être même une phrase qui aura pu être dite à table, ou non pas par une voisine, mais en lecture de table. Ou alors un livre, dans le livre que vous lisez, il y a telle phrase qui vous a marqué. Donc souvent, le bon Dieu parle particulièrement pendant les retraites, et donc profitez en ce moment-là des lumières que vous avez, ou par rapport à un défaut à corriger, par rapport à une vertu à pratiquer, par rapport à l'attitude à avoir vis-à-vis de telle ou telle personne. Donc n'hésitez pas à essayer de fixer ces grâces-là que le bon Dieu vous indiquera au cours de la retraite. Ensuite, il y a un certain rythme de conférence qui est donné avec un équilibre. Donc la première partie, c'est plutôt une partie plutôt purgative de l'âme. Donc il s'agit de purifier son âme pour pouvoir approcher de Dieu. Donc ensuite, au bout de 2 jours de retraite, il y a à peu près il y a une matinée qui est réservée pour les confessions, pour celles qui le désirent, en espérant que tout le monde le désire. On vous aidera à le désirer. Donc une bonne confession, ça peut aider, et bien sûr, à faire une bonne retraite. Et puis après, la deuxième partie, on regardera plutôt donc le devenir après, ce que faire ensuite pour avoir encore une vie meilleure. Donc la première partie, c'est plutôt, on est d'abord avant tout pour regarder Dieu, hein, c'est lui qui va nous changer. C'est pas pour se regarder soi, mais en même temps aussi, quand on regarde le bon Dieu, on ne peut pas ne pas se voir avec les lunettes justement du bon Dieu, voyez. Se voir comme le bon Dieu nous voit. Et donc c'est ce qui nous aide en ce moment-là à prendre conscience de ce qui ne va pas pour le corriger, et puis ensuite à prendre après les décisions voulues pour les résolutions voulues pour essayer d'avancer, de continuer à avancer dans le bon sens. Et puis donc dans la première partie de la retraite, on est plutôt sur des généralités, et puis après on va rentrer après encore plus, de plus en plus vers le concret, parce qu'en plus les femmes sont très concrètes. Donc du coup, on vous aurez après des conseils aussi pratico-pratiques qui vous seront donnés pour vous aider donc à vous sanctifier. Alors nous sommes 4 prêtres pour prêcher cette retraite. Donc il y a Monsieur l'abbé Laurençon, donc qui était en face de moi à table. Ensuite Monsieur l'abbé Bodo, qui était donc à ma droite. Monsieur l'abbé Laurençon, donc, qui est à Montgardin maintenant, donc, et dans cette maison contemplative de la fraternité près de Gap. Monsieur l'abbé Baudot, qui est donc assistant de Monsieur l'abbé Bouchacourt, qui est supérieur du district de France, donc il est assistant du supérieur en France, après avoir été pendant très longtemps économe général de la fraternité. Et puis ensuite, il y a le père Pierre, qui est un capucin. Donc de Morgon, mais qui est dans la maison de Pontchardon, près de Blois, et qui donc sera le quatrième prédicateur. Donc il y a 4 instructions par jour, donc vous aurez comme ça le choix, enfin vous entendrez en tout cas les 4 prêtres. Hein, et après, je vous conseille de voir un prêtre pendant la retraite, je pense que ça fait aussi beaucoup de bien. Surtout pour les plus jeunes, enfin ça fait du bien à tout le monde, mais les plus jeunes risquent de ne pas oser venir voir le prêtre, ça fait peur, qu'est-ce qu'on va lui dire? On fera connaissance. Ce sera déjà ça. Et puis après, on vous aidera. Donc ne vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est important de voir un prêtre. On n'est pas obligé de le voir tous les jours, hein, mais enfin, ça dépend après des personnes. Certains, parfois, vaut mieux y aller tous les jours. Mais ce sera à vous de voir. Mais je pense que c'est en tout cas bien de voir un prêtre. Et surtout de ne pas garder pour soi lorsqu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et que vous auriez besoin que ça sorte. Voilà. Donc on est là pour vous aider à cela. Ensuite, il ne faut pas hésiter non plus, si vous avez besoin de prendre l'air, à sortir. Déjà dans la propriété, vous pouvez vous déplacer, bien sûr, à votre aise et à votre guise. Mais ensuite, en sortant par le portail principal, vous pouvez, en longeant le séminaire, après en redescendant, c'est mieux que d'aller peut-être dans le village, vous pouvez ensuite après vous retrouver dans la nature. Donc si vous voulez aussi respirer un petit peu le bon air de Flavigny, enfin, ou des alentours, vous pourrez aussi dans vos temps libres. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, celles parmi vous qui auraient un régime alimentaire ou particulier, qu'elles n'hésitent pas à le dire. Par ailleurs, essayez de ne pas déranger le sommeil des autres. Donc, évitez d'utiliser la chasse d'eau pendant la nuit, donc après 22 h, ou les douches aussi, ou avant 6 h 30 le matin. Voilà. Après aussi une autre chose, bon, c'est sûr que c'est un point de détail, mais je pense qu'il a aussi son importance quand même. On pourra en reparler pendant la retraite. Mais je demande aux dames d'avoir aussi la tête couverte dans l'église, parce que en fait, le voile est un des symboles de la femme. Et donc, en touchant la féminité, parce qu'on a voulu faire une société, bâtir une société unisexe, donc on a fait en sorte que les femmes s'habillent comme des hommes, travaillent maintenant comme les hommes. Et puis maintenant, on arrive après à revendiquer après des mœurs contre nature. Et parce que le démon n'est pas capable de construire quoi que ce soit, vous voyez. Dieu seul est créateur. Donc la seule chose que le démon peut faire, c'est démolir. Donc il a cherché à démolir d'abord l'ordre surnaturel, donc par le naturalisme, en refusant la grâce. Et puis après, bien, aujourd'hui, on arrive dans une société très décadente, hein, où on arrive au contraire à vouloir ensuite, eh bien, attaquer la nature même. Donc si on fait le but des révolutionnaires, c'est d'essayer de s'emparer, en fait, dès le plus jeune âge, des enfants au berceau, dans le but de les formater selon le moule de la pensée unique. Hein. Et donc pour ça, il faut les arracher à leur maman. Donc on n'a pas dit aux mamans, on va vous voler vos enfants, on leur a dit, eh bien, liberté, liberté, liberté. Vous aurez les mêmes droits que les hommes, vous pourrez travailler comme eux, avoir le même salaire qu'eux, et puis, même si aujourd'hui je crois qu'elles n'ont pas encore exactement le même salaire dans tous les domaines, bon, c'est encore, ça dépend après des métiers. Et donc on est arrivé ainsi à bâtir une société malheureusement unisexe, comme je le disais. Et je pense que pour nous qui avons compris, je pense, ces principes-là, on ne veut pas rentrer dedans. Alors, quel rapport avec le voile? Ben, tout simplement, c'est le fait que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue, dit la citation, hein, il faut dire la citation complète. Donc, à un prêtre, la soutane, si vous me voyez en civil, en jean, enfin, ça paraîtrait un peu bizarre, je pense, pour vous, qu'on dit, tiens, l'abbé Trodec, c'est pas lui, c'est un sosie. Eh bien, vous aurez le droit, enfin, d'être au moins étonné en me voyant comme cela. Rassurez-vous, vous ne me verrez jamais comme cela. Mais donc moi aussi j'ai le droit d'être étonné aussi en voyant que des femmes s'habillent comme les hommes. Et puis aussi, donc après, même si c'était arrivé avant cette question du foulard, en fait, les grands moments de la vie d'une femme se passent sous le voile. Voyez. Vous avez le voile du baptême, vous avez ensuite le voile de la mariée, vous avez ensuite pour la prise d'habit, donc il y a le voile aussi de la religieuse. Et puis ensuite, vous aviez autrefois donc le voile de la veuve. Donc, les grands moments de la vie d'une femme se passent sous le voile, parce que le voile est un des symboles de la féminité. Oui. Et donc, si on touche au symbole, bien, petit à petit, on touchera à la réalité qui est signifiée par derrière. Et là, nos ennemis le savent bien. Par exemple, pour prendre la soutane, vous avez un texte très connu de Ferdinand Buisson qui disait: on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais moi, je soutiens que l'habit fait le moine. Il dit: si on enlève aux prêtres la soutane, c'est en 1904, hein, donc le Concile Vatican II, c'est 1962-1965. Et la nouvelle messe, c'est 1970. Eh bien, dès 1904, il disait, si on arrive à arracher aux prêtres la soutane, tôt ou tard, le prêtre deviendra un homme comme les autres. La soutane rappelle au prêtre qu'il n'est pas un homme comme les autres. Et donc, de fait, ça aide le prêtre à rester prêtre. Eh bien, je dirais qu'une femme, eh bien, aussi, les vêtements féminins aident une femme à se comporter en femme. Donc, c'est tout simplement, vous voyez. Et donc, ça aussi, donc, il y a eu toute une pensée derrière, si vous voulez, même si aujourd'hui, bon, beaucoup de femmes qui s'habillent comme cela n'y pensent pas elles-mêmes, elles n'ont pas du tout envie forcément de devenir comme des hommes. Mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, eh bien, quand on touche au signe, petit à petit, on touche à la réalité qui est signifiée par derrière. Et donc, quand une femme, eh bien, je dirais, se masculinise, eh bien, elle devient moins féminine, parce qu'une femme ne pourra jamais réunir en elle-même les qualités des deux sexes, oui. Comme lorsque les hommes deviennent moins virils, et beaucoup de femmes trouvent que les hommes manquent de responsabilité, ils manquent d'esprit de décision, ils manquent de... Eh bien, ça, vous le voyez plus pour les autres que pour vous, parce qu'en général, on voit mieux pour les autres que pour soi. Mais en fait, c'est justement, si on veut arriver à rétablir une société, eh bien, il faut que chacun retrouve sa place. Et donc, ça commence par des petites choses comme ça. Voilà, enfin, j'ai déjà beaucoup parlé, mais... En tout cas, je souhaite que cette retraite vous fasse beaucoup de bien. Donc, le but essentiel de la retraite, c'est de vous unir à Dieu, de vous plonger près du bon Dieu, de vous confier à Dieu, de tous vos soucis, toutes vos peines, tous vos désirs, pour que lui-même, eh bien, vous bonifie, vous sanctifie, vous purifie, pour que vous puissiez après partir avec un bel élan vers le ciel qui est si beau. Donc nous allons nous rendre maintenant à l'église pour la prière des complies. Donc la prière des complies, c'est la prière de l'église, donc les moines, les religieux, les religieuses donc utilisent comme prière du soir. Donc c'est une prière qui est très apaisante et qui va vous aider à rentrer dans l'esprit de cette retraite. Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Cœur sacré de Jésus.
J'ai confiance.
Cœur douloureux et immaculé de Marie.
Priez pour nous.
Nos saints anges gardiens, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassées reposent en paix.
Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.